Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est le lendemain de la veille. Avant la pause, on parlait bande dessinée avec Esmera et Chanson noire de Jake Dion. Et on continue avec une autre bande dessinée, Marc-André?
Non, cette fois-ci, c'est deux bandes dessinées adultes, mais moi, je pense aux tout-petits. Mais là, je pense aux 7 à 77 ans. Quoi de mieux pour les 7 à 77 ans? Tintin, Astérix, mais surtout une nouvelle
Lucky
série.
Luke.
Lucky Luke, ben oui, c'est vrai. Mais on oublie aussi de la Trinité, il y avait qui d'autre?
Spirou.
Ouais, j'ai moins embarqué, moi.
Bully Bill.
Bully Bill, ouais.
Gaston Lagaffe.
Les Schtroumpfs.
Les Schtroumpfs.
C'est quoi en espagnol, les Schtroumpfs?
Los Schtroumpfs.
Non.
Los...
En anglais, tu sais c'est quoi?
Smurfs.
Ouais. Moi, quand on m'a expliqué en espagnol la première fois, il y avait un petit garçon qui habitait dans le même building que moi, puis sa mère me disait « Has visto mi pitufo? »
Pitufo.
Et moi, je ne savais pas c'est quoi un pitufo.
Pitufo.
Okay. Et là, elle me disait « C'est les petits bonhommes bleus. » Mais j'ai pas vu de petits bonhommes bleus. Puis un pitufo, vu que c'était bien à mode dans ce temps-là, c'était les schtroumpfs. Los pitufos, c'est les schtroumpfs. La pitufa, c'est la schtroumpfette.
Okay.
Mais là, je reviens de loin. Un callback, si vous m'écoutez depuis le début, si vous n'êtes pas tanné de m'entendre, mais que vous voulez lire, voir un livre hallucinant, et le mot est faible, c'est un livre écrit par Mathias Picard, j'en avais déjà parlé, une série qui s'appelle Jim Curious, c'est en français, c'est un auteur français, et là, cette fois-ci, notre personnage principal, Jim Curious, c'est Voyage au cœur de l'océan.
Okay.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier de ce livre-là? C'est qu'il n'y a aucune parole, il y a des cases comme dans une bande dessinée, mais pour le lire, que vous soyez myope ou presbyte ou non, ou une vision de lynx à 100%, vous devez porter des lunettes qui ont une couleur rouge et une couleur
bleue.
Bravo, morceau de robot.
Comme les vieilles lunettes 3D des années 50.
Pour les films qu'on écoutait à la télé et que ça ne fonctionnait pas.
Oui.
Mais pour ce livre-là, et comme pour le précédent, ça fonctionne, c'est que notre personnage Jim s'en va avec son scaphandre. Il plonge dans les fonds marins, il descend, et on l'accompagne dans les profondeurs où il croise des poissons, toutes les poissons inimaginables, une baleine comme tu as vu quand tu es allé dans ton expédition
à Charlevoix,
un requin, je pense pas que tu as vu un requin, je pense pas que tu as vu Jaws quand tu es allé à Charlevoix, les dents de la mer, et une pulpe, une pieuvre, tout ça. Et on croise aussi des monstres et des bêtes et des objets étranges qu'on pourrait retrouver dans la mer qui existent ou qui n'existent pas, comme des épaves de bateau, par exemple. Fait que Jim Curious est une plongée en trois dimensions qui fera le bonheur des petits et des grands. Je te le prête, mets tes lunettes.
C'est un grand livre. Hein?
C'est un grand livre, grand format.
Ouais.
Ça se lit en moins d'une heure. Ça dépend si vous êtes curieux, vous regardez tous les détails.
Alors, la seule question, c'est est-ce que l'effet 3D fonctionne avec les
lunettes? Toujours. Avec M. Mathias, ça fonctionne toujours.
C'est vrai?
Un dessin assez simple pour son personnage de Jim Curious, qui est très cartoon facile, mais les poissons, dont le requin, dont les spirales, dont les bulles, dont les fonds marins, fonctionnent très, très bien. Fait que je vous le conseille.
Donc, est-ce qu'on peut lire sans les lunettes?
Oui, mais moi, je trouve que ça donne un flou et c'est moins intéressant. Oui,
effectivement.
Ça me donne presque mal à la tête.
Ça donne mal aux yeux sans les lunettes.
Exactement.
Et je remarque qu'il y a quelques cases qui ne sont pas en 3D.
Oui, au début, quand le personnage n'est pas encore plongé et n'est pas immersé complètement dans l'eau, le 3D n'est pas là. Et quand il en ressort à la fin du livre, même chose. Mais tout le reste est trois dimensions. Il y a un petit décalage d'image.
Très cool.
Oui, très cool. Jim Curious. On continue chez nos amis français. Là, on tombe dans le cinéma. Un film qui s'appelle France.
France, comme dans France Castel.
Oui. Ou France...
D'amour.
France d'amour, exactement.
Animal.
Oui, je t'ai choisi.
Je t'ai choisi.
Ben, ça comporte l'actrice Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay. Benjamin Biolay qui est
un chanteur,
musicien, acteur, tout ça. Il fait le mari du personnage de France.
Blanche Gardin, je t'interromps, c'est une stand-up comique.
Ah, OK. Elle n'est pas si drôle que ça là-dedans, par exemple.
Ah,
mais donc, ouais, bonne okay. comédienne. Ah, mais aussi. Je ne savais pas, OK. Oui, ouais, mais elle est bonne comédienne.
Elle a même son Netflix special, je crois.
Oh oui!
Je pense
ça bien. Vaut-tu la peine?
Je ne l'ai pas écouté.
Non, OK. Bon, ben merci. Je ne savais pas, j'en apprends. C'est... OK, mais... ouais, c'est son acolyte dans le personnage principal de France. Fait que là, ça a gagné des... Là, j'ai le boisson entre les mains. Le film est paru sur K-Film Amérique. Fait que c'est comme une importation là, pour le territoire québécois. Il a gagné le prix des médias films en 2021. Là, on met des étoiles rouges, 5 étoiles rouges, cahier de cinéma, les Inrock. Et aussi le journal Le Monde. Mais, puis Festival de Cannes, il était en compétition de sélection officielle en 2021. Et j'ai oublié de dire le réalisateur, c'est tout simplement un film de Bruno Dumont, que je ne connais ni dans et ni de Ève.
Moi non plus, je ne connais pas.
Mais le film, c'est à la fois le portrait d'une femme, une journaliste à la télévision, qui fait des reportages, on va dire, un peu sensationnalistes. Puis ça parle d'un pays, la France, et d'un système, celui des médias. Très bon film, je vous le recommande. Je m'attendais à rien. Je trouvais que le hype, la mise en publicité était un peu... ça avait l'air un peu pompeux. 5 minutes quand ils disent « Festival de Cannes, on a gagné, on est allé là, on est bon, on est hot, nous, on est les meilleurs. » Ben c'est très bon. C'est une bonne critique sociale sur le rôle de cette femme-là qui représente beaucoup de femmes qui ont une famille, qui font carrière, qui sont à la fois épouses, amantes, qui ont un rôle social, qui ont un rôle dans les médias. Leurs amitiés, leur famille, c'est un bon film. Je vous le recommande. Je vous en dis pas plus. Si vous n'avez rien écouté à un moment donné, vous écoutez France et vous allez voir une critique sur comment on se fait manipuler par les médias, principalement, dans ce cas-ci, un peu la télévision.
Mais est-ce que tu as l'impression, j'ai pas vu le film,
critique.
Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment plus ciblé pour les médias français? Ou est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer un peu partout?
Oui, mais je pense que ça peut s'appliquer un peu partout parce que les reportages, elle s'insère beaucoup dans les reportages. Elle s'en va où est-ce qu'il y a des migrants qui traversent des frontières en bateau de sauvetage. Elle se met dans le bateau, elle se met elle-même en scène. Elle va à des endroits où est-ce qu'il y a des conflits. Elle interview des groupes armés entre guillemets terroristes. Fait qu'elle est vraiment il y a un petit côté sensationnaliste très...
OK.
Ouais, c'est
bon, on voit ça un peu partout, je pense. Hein. C'est pas unique à la France.
Non, c'est ça. Aux États-Unis, partout dans le monde, c'est ce genre de nouveau...
Anderson Cooper, là, qui se promène...
C'est ce nouveau style de journalisme. Qui se met en scène, qui se met un gilet pare-balles, un casque bleu, puis qui se promène avec l'ONU ou tout ça. Mais... c'est qu'on voit l'envers du décor. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour arriver à ce reportage-là.
Et je vois même sur la pochette du DVD que j'ai en main ici que même Franco Nuovo a aimé le film. Il dit « Remarquable et magnifique, Léa Seydoux ». Alors, approuvé par Franco Nuovo de Radio-Canada.
OK. Bon, avec ça, le saut d'approval est... estampé.
C'est bon.
C'est bon. On pensait que c'était juste les Français qui encensaient le film. Est-ce qu'on y va en musique ou...
Let's go!
Je pense que oui. J'ai-tu changé les affaires? Oui, j'ai changé les affaires. On y va en musique.
Inquiétez-vous pas, c'est une longue introduction, mais la musique s'en vient.
Mmh. like an August night. Wrenching your loving. I got a dirty black summer. Yeah, my dirty black summer. Yeah, give me black summer. Yeah, my dirty black summer. And nothing in the coolest light. Can't stop a walking out across the line. No holding back a summer night. I got a feeling it's just a dirty black summer.
Vous êtes sur les ondes de CKUT 90,3 FM, c'est le lendemain de la veille. On vient d'écouter une pièce du grand groupe mythique Danzig.
Glenn Danzig pour les intimes, le chanteur original des Misfits.
Et c'était la pièce
Dirty Black Summer.
Black Summer.
J'espère que vous avez eu un Dirty Black Summer. Il était chaud, il était hot. On a eu chaud pour quelques secondes. Je me rappelais pas qu'il y avait un intro aussi long pour la chanson. On pensait qu'il se passait de quoi de bizarre et de mystérieux en studio.
On a cru que le CD avait skippé.
Non, moi, je pensais plutôt qu'il allait pleuvoir à l'extérieur, qu'il y avait des orages, que c'était, c'était la fin du monde.
Okay.
En parlant de fin du monde, sorti sur l'album All the God Kill, c'est le troisième album de Danzig. Il y a des. Danzig a été chanceux d'avoir ses pochettes illustrées par non moindre, le non moindre artiste suisse H.R. Giger.
Oh.
Et par un autre aussi qui. Il ne l'a peut-être pas illustré, mais il est allé chercher des gens qui dessinaient dans le même style que M. Frank Frazetta, qu'on va parler à l'instant même. Je vais vous parler du film que Frank Frazetta a fait. C'est un Américain. Ça s'appelle Fire and Ice. J'ai la pochette dans les mains. Et à quoi ça peut bien te faire penser, mon ami Nelson, ce genre de pochette-là?
Ça fait penser aux films médiévaux des années 80. Ça fait penser un peu à Princess Bride ou bien le BDS italien qu'on a déjà mentionné ici, j'ai oublié le nom.
Exactement. Mais regarde, c'est
Conan, ça fait penser à Conan.
The Barbarian, exactement. Ça, là, ce film-là, qui est, je répète, Fire and Ice, le feu et la glace, c'est réalisé, c'est produit par Ralph Bakshi, oh. qui était le directeur de Fritz the Cat,
ouais.
de notre ami, je vais-tu le dire? Je pense que je vais le dire.
C'est
Robert Crumb, mais que Robert Crumb a jamais aimé, qu'il n'a jamais accepté. Il a toujours refusé la paternité, même si c'était son personnage. Il a tué Fritz the Cat, d'ailleurs, pour ça. Il a dirigé aussi Wizard. Il a fait aussi l'original Lord of the Rings, celui en comic dessiné.
En dessin animé.
En dessin animé, c'est ouais. lui.
Et aussi, je t'interromps, American Pop. Un autre long-métrage animé de Ralph Bakshi.
Ah, je ne connais
pas. Il y avait une technique particulière à l'époque parce qu'il filmait des vrais gens.
Oui,
puis
t'es bon.
Il peinturait par-dessus les images, donc les pellicules, pour faire en sorte que le mouvement
soit réel.
Le plus réaliste possible. C'est vraiment impressionnant à voir ces dessins animés-là parce qu'on a vraiment l'impression que s'il y a vraiment quelqu'un qui bouge, le mouvement, la fluidité du mouvement versus les dessins animés de cette époque-là où c'était plutôt saccadé.
Oui.
Parce qu'évidemment, il faut dessiner chacune des cellules, là, chaque image.
Combien d'images par seconde?
Ben, 24.
Oui.
Ouais, au cinéma, c'est 24. Donc, en dessin animé, c'est peut-être pas 24 par contre, je ne suis pas sûr. Mais bon, on va dire que c'est 24. Là. Mais dans son cas, à lui, on a l'impression que c'est plus que 24 parce que les mouvements sont hyper fluides.
Et c'est pas stagé, mesdames et messieurs. Nelson m'enlève les mots de la bouche. Enlève mon jus d'orange de la bouche ce matin.
Excuse-moi,
Mais c'est correct. C'est la technique d'animation, tu sais comment que ça s'appelle?
Non.
La rotoscope.
Rotoscope.
Oui. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Fire and Ice. Fait que c'est le double du travail. C'est qu'il choisit des acteurs, il les filme, il les met en scène. Et là, il n'y a pas de blue screen, il n'y a pas de green screen. Et il faut qu'il fasse des... admettons, il faut qu'il grimpe des échelles, des escaliers, il saute d'une corde, ben il filme comme ça. Fait qu'il faut quand même qu'il fabrique des props, il faut qu'il fabrique un minimum de stage, de sauts. Et les comédiens sont filmés. Et après ça, il arrive avec les images, c'est des photos. Et sur une table à dessin lumineuse, il met une feuille par-dessus blanche et il dessine image par image chaque mouvement. Fait que c'est un travail de moine. Et dans le film, ben, il y a deux disques. C'est une édition limitée. Eh bien, il y a le making of, le deuxième DVD.
Intéressant.
Il explique comment ça a été fait. Et c'est vraiment intéressant parce que ça date à peu près des époques d'aussi. Le comédien me fait penser étrangement à celui qui jouait dans Flash Gordon, le personnage, parce que c'est un blond avec les cheveux courts, mais il y a comme un mullet. Il y a une actrice pulpeuse. Le film, l'histoire, c'est vraiment là, du fantastique. Il y a un méchant, il y a des monstres, des orques, puis tout ça. Puis il y a des haeux, ils se promènent avec des épées, puis des haches, puis ils se battent, puis sont habillés à peu près en Tarzan. C'est très Conan the Barbarian, là, le Connor le barbare. mais c'est très cool. Moi, je ne l'avais jamais vu, ou je ne me rappelais pas de l'avoir vu. Puis il y a une reine mystérieuse et méchante qui envoie ces hommes essayer de détruire tout sur leur passage et dominer la planète. Fait que c'est super intéressant, mais qu'est-ce qui est plus intéressant que le film lui-même? C'est l'extra, le deuxième disque qui comprend Frazetta, ça s'appelle Painting with Fire. Et c'est un documentaire de 93 minutes qui explore la vie remarquable et la carrière de cet homme qui, tout simplement, a changé l'image du fantasy art forever.
Pour donc toujours. Là, juste pour résumer, c'est un film de Ralph Bakshi ou de Frank Frazetta?
Non, c'est l'artiste, c'est Frank Frazetta. Oui. Mais le producteur, le réalisateur, celui qui est allé le chercher puis pour le mener à terme, le réalisateur, c'est Ralph Bakshi.
OK. Ouais. Donc, est-ce que c'est dessiné par Frank Frazetta?
Oui, puis une équipe, là, il n'est pas tout seul.
Ouais, c'est
mais
sûr.
C'est son univers, c'est son style,
okay.
puis tout ça. Faut dire que Frank Frazetta illustre depuis très longtemps et c'est un natif américain. Et il avait été approché là, dès le début pour son talent visuel par Disney et Warner. Puis il avait dit non, merci.
Ah.
Faut quand même. Puis il y avait beaucoup de, il y avait des enfants, lui. Fait qu'il faut avoir quand même les reins solides. Puis il faut vraiment croire en, en ce qu'on fait pour dire non, je vais pas aller.
Faire des petits dessins
Mickey Mouse pour Walt Disney. Pourquoi j'ai mis du Danzig? Ben, c'est dans le documentaire, il y a beaucoup d'entrevues avec des gens que l'art visuel de cet artiste-là a influencé, dont Mr. Misfits himself, Glenn Danzig. On a même Bo Derek, qui est approché aussi pour faire les Pulpers, qui était la Pamela Anderson de ces années-là. Bo Derek qui était la belle blonde Pulpers. Fait que c'est tout ça. Frank Frazetta, en gros, c'est un illustrateur, c'est un peintre. Il a fait des comics, il a fait des affiches de films. Conan, c'est une des... Tu sais, toutes les pochettes des années 80 là, qui étaient des hommes musclés, là,
oui.
Là, du fantasy, là, homo-érotico, c'était lui qui dessinait ça. Tu sais, des gars plus musclés que Arnold Schwarzenegger, là, tu sais, tout en soir, puis tout ça, puis les dames à leur pied, tout ça. Fait qu'il a fait des affiches de films, il fait des peintures, il a fait des films, tout ça. Il aurait pu devenir un pro du baseball, c'était un fanatique de baseball, il jouait au baseball, il a été approché dans les minor leagues, puis tout ça. Mais à un moment donné, il a décidé d'aller tout simplement dans les arts. Puis c'était pas nécessairement bien vu dans ces années-là. Et ça a été un super bon move parce que lui, il y a personne qui maîtrise des sujets comme la nature, les hommes, les femmes, l'anatomie des corps humains, les chevaux en mouvement et les monstres. Fait que tous les mouvements de musculature, tout ça, je pense que c'est pour ça que le producteur est allé le chercher. Il savait comment dessiner l'anatomie d'un...
Ouais.
Des tout ça. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qui est triste dans le documentaire, on apprend que notre Frank a une crise cardiaque et il devient paralysé. Tu sais, des fois, quand t'as une crise cardiaque, t'as un bord qui te lâche. Lui, il était droitier. Il a fallu qu'il réapprenne à dessiner, à tenir un pinceau. Et lui, là, c'est de l'extrême réaliste. Là. Fait que c'est dur.
C'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail. Et il est devenu gaucher.
Wow!
Il est devenu gaucher. Peintre gaucher. Puis tu vois les œuvres, puis c'est encore sur la coche.
Incroyable.
Incroyable.
Vraiment.
Fait que, en gros, aussi dans le documentaire, on voit sa femme, sa fille, ses fils. Il y a un musée qui a été fait pour lui, de son vivant, avec plusieurs de ses pièces qui sont là. Et là, ses œuvres se vendent des prix astronomiques. Et qu'est-ce qui est très triste aussi, pendant un long moment aux États-Unis, il était boudé par ce qu'on appelle le fine art. C'est l'art noble, l'art, on va dire, de l'aristocratie.
Les beaux-arts.
Les beaux-arts snobaient comme ça se peut pas, Frank. Souvent, il se retrouvait à faire des commission art pour des choses qu'il aimait plus ou moins, mais qu'il payait. Mais à un moment donné, le vent, on ne sait pas comment, à un moment donné, ça a changé et le monde a commencé à découvrir son talent. Il a fait beaucoup de livres, des pulp livres, des livres de science-fiction qui ont eu beaucoup de succès, que tout le monde lisait. Et là, le monde a redécouvert son talent parce que seul lui faisait ce que Frank faisait. Il a été copié par la suite, mais c'est lui l'instigateur de ce genre de... C'est tout le temps comme une espèce de triangle, tu sais, un être en haut, au milieu.
Ouais.
Et là, à ses pieds, admettons, à gauche, il y a une femme, à droite, il va avoir une bébite. Fait que si tu regardes la toile ou l'image qui est faite comme une feuille blanche, ben ça fait un triangle.
Moi, ça fait penser, ben on a dit Conan.
Oui.
C'est sûrement lui qui l'a dessiné,
oui,
peut-être.
Exact.
Puis j'ai même en tête les premières affiches des Star Wars originaux.
C'est pas lui, mais c'est fortement...
Dans le style un
c'est,
peu.
Ouais, c'est fortement
Luke Skywalker qui était beaucoup plus musclé sur l'illustration que dans le film.
Puis il est dans le milieu avec son
sang blazer. Puis il y a Léa à ses pieds.
Exactement, ouais, c'est tout
en
ça.
En triangle encore. Là.
Tout ça, aussi la pochette de... de, je l'ai dit tout à l'heure, pas Conan, Flash Gordon. C'est très, très pulp, là, très vieux polar des années 50. Fait, moi, je vous recommande Fire and Ice pour l'animation de l'époque qui est assez impressionnante avec la technique d'animation rotoscope que je ne connaissais pas et que j'ai appris.
C'est vraiment impressionnant.
C'est vraiment impressionnant, surtout qu'on... On le voit très bien. Et surtout pour les entrevues, on voit Danzig, on en voit d'autres. Fait que c'est vraiment intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand que ça s'est reviré, qu'il y a eu ces... avant qu'il meure un peu, il y a un magazine américain, tu sais, en France, c'est Les Beaux-Arts, mais il y a un magazine qui s'appelle American Artists et qui rencontre des artistes américains de partout avec des styles différents. Et il y a Frank Frazetta a fini par faire la couverture et un article important sur lui dans ce magazine-là. Fait okay. À la fin de sa vie, il a été reconnu à sa juste valeur.
OK. Parce que c'est qu'il faut quand même avouer qu'il y a un réel talent qui est assez
incroyable.
Qui est assez incroyable, que c'est du hyper-réalisme.
Oui.
Donc là, on s'entend que, OK, le sujet, tu peux ne pas l'aimer.
Ouais.
Des messieurs avec des hachettes, puis des cheveux longs, puis des pantalons en peau d'animal. Donc, c'est très
cliché, un peu.
Cliché médiéval, aventure, puis aussi peut-être un peu trop, un peu... je vais pas dire misogyne, mais bon, les femmes sont jamais en premier plan.
Ouais.
C'est souvent des femmes objets. Mais il y a un réel talent d'artiste derrière ça.
Oui, puis juste, admettons, si tu enlèves les personnages de l'image de la couverture de Fire and Ice, juste le paysage, les roches, le rendu des roches, des montagnes, de la neige, il n'y a personne, tout le monde le connaît. Là tu vas en voir plein qui ont fait ça, mais c'est lui l'instigateur, c'est le OG de ce genre d'art visuel. Et là, le temps file comme à l'habitude, 2 minutes, et il y aurait eu encore de la musique.
Environ 1 minute, Marc-André, je te dirais.
Mais j'ai parlé de ce que je voulais parler aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à couvrir, beaucoup de bonnes bandes dessinées, des bons livres, des bons films. On vous en recommande toujours. Si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez écouter, entendre, lâchez-nous un petit coucou et on va peut-être vous écouter.
On va peut-être vous écouter. Non, moi, je dirais qu'on va certainement vous écouter.
Oui.
Et certainement, vous allez y revenir la semaine prochaine sur les ondes de CKUT 90,3.
Pour le lendemain de la veille.
Bye-bye.
Bye-bye.
Now Cara Patties is on a fast break with Veggie Patty leading the charge. The pass is down deep to Goat Patty. Goat Patty passes baseline to Beef Patty. Beef Patty shoots from downtown at the buzzer. And bingo! It's in! It's in! Cara Patties wins the game and is now the world champions! The number one in Montreal. Come on down to 9550 Jean Milot in LaSalle for the best patties, rotis, jerk chicken, and more. Or call us at 438-387-4004. Cara Patties, the champions of Montreal.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
Looking for Montreal's best organic and fair trade certified coffee? And the winner is Centre Paul, serving the freshest to the coolest means that not only the folks at CKUT are hooked, it's also McGill's fair trade favorite. Enjoy it in the cup at the Architecture Cafe, Thompson House, and Vegirama Arts, Education, and Music. Find it by the pound at Fruiterie du Parc in the shopping concourse under the new Hotel McGill at Place du Parc. Or go straight to the source, Café Centre Paul, at the corner of Duluth and Saint-Urbain.
We are now tuned into the universe of Latin Music Mondays. Welcome back once again to our program. We are very glad that you are out there hearing us on the dial at 90.3 and also by the World Wide Web, which implies that we are now being heard in the whole world and even more up to the far Milky Way, right? This is DJ The Most High, and I'm going to be with you for the next 2 hours here in Latin Music Mondays. Today we do have a very special program. Today is Cosmo Vision Records Day. We're going to review some remixes, some new edits freshly pressed this year and launched by Cosmo Vision. Cosmo Vision is a label originally coming from Montreal and now all over the world, also in France and well over the world. This is a family, a Cosmo Vision record family, and salutations to Don Mescal and Felipe Nadeau and well Eli and many others, people that do work hard to deliver the product, right? Cosmo Vision edits Latin Music Mondays. Lock it, DJ The Most High, right?
قلبك ناداني وقال